Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 11 décembre 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 12 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la dissidence, bonsoir. Ce soir, émission tranquille, tranquille si j'ose dire, parce que, alors, il faut quand même que je vous explique que Victoria n'est pas là. Victoria est malade. Et puis, Jack non plus. Enfin, je sais pas, ils sont tout le temps malades tous les deux, ça je remarque. Hein, c'est tout. Je fais aucun commentaire, mais enfin quand même, ça peut pas... Voilà. Donc, ils ne sont là ni l'un ni l'autre. Et par conséquent, il y a que Mylène pour répondre au téléphone, je crois. C'est ça. Et puis une autre dame que je n'ai pas vue. Et par conséquent, si vraiment c'est juste pour m'engueuler, vous envoyez plutôt une lettre. Si c'est pour dire des choses intéressantes, vous pouvez téléphoner, bien sûr. Mais si, par exemple, c'est pour dire que les francs-maçons portent pas de tablier en peau de cochon, vous me faites comme d'habitude, cher monsieur, vous m'envoyez une lettre. Parce qu'il y a un auditeur qui m'envoie systématiquement un mot pour me dire que, contrairement à ce que je prétends, les tabliers des francs-maçons sont pas en peau de cochon. Et alors il me le dit une fois, je le répète, et il m'envoie une lettre en me disant « Vous ne tenez aucun compte de la vie de vos auditeurs. »
Le vinyle triomphe dans les loges maintenant, le vinyle.
Ah, c'est du vinyle.
Oui, du plastique.
Donc, tablier en peau de plastique, on va dire. Mais c'est tellement plus drôle en peau de cochon, parce que en peau d'aran, c'est très marrant aussi, mais c'est pas vraisemblable.
Puis ça va avec les tours de cochon.
C'est... Oui. Alors, vous savez que cette radio est vraiment extraordinaire, Radio Courtoisie, parce que ce matin, enfin, j'ai entendu la rediffusion de l'émission d'hier, si je ne m'abuse, comme disait le docteur, bien sûr. Je la fais à chaque fois, celle-là. C'est pour habituer l'auditeur. On a dit du bien dans l'émission de Philippe de Saint-Robert de Michel Debré. Mmh. Il n'y a plus que chez nous qu'on peut dire du bien de Michel Debré.
Oui. Il fallait s'y attendre un jour.
Oui. Mais j'étais très content, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, et notamment j'ai pris une leçon de français. Sur les... Alors, malheureusement, j'ai oublié le terme exact, mais c'était quelque chose comme les loyautés successives de Michel Debré. C'est-à-dire, avec Michel Debré, il avait écrit dans le courrier de la colère que ce serait un devoir d'honneur pour tout Français de se dresser les armes à la main contre les régimes de rencontre qui lui prétendraient brader l'Algérie. Et ensuite, il a assisté avec une sérénité, une placidité digne d'éloge. Ça n'a rien à voir, en l'occurrence. Il a assisté à la répression sauvage des gens qui avaient simplement dit ce qu'il leur avait dit de faire.
Oui, il ne voyait plus rien, il n'entendait plus rien parce que l'entonnoir était descendu.
Juste aux oreilles.
Et il a fait mettre en tôle le rédacteur en chef de son journal.
De son propre journal. Oui, alors donc c'est quand même un grand honnête homme, il faut bien reconnaître, voilà. Et il mérite d'être célébré. Cela dit, le bouquin qui lui est consacré, je n'ai pas retenu le nom de l'auteur, mais est extrêmement intéressant, on apprend beaucoup de choses, et notamment une chose que j'ignorais totalement. Moi, je croyais que c'était le grand-père de... que le grand-père de Debré était grand rabbin, et que son père, le professeur Debré, s'était converti au catholicisme. Et pas du tout, j'ai appris que Debré s'était converti, Michel Debré est devenu catholique en 1940, après la débâcle. C'est curieux, hein. C'est étonnant de sa part, ça, quand même. C'est, tu vois. Enfin, voilà. Donc, c'était pour dire que on est quand même une radio formidable. Hein, parce que la dernière radio, on dit du bien de Michel Debré. Je peux dire que sur les autres radios, ils savent probablement
voilà,
même pas
qui c'est. Voilà, c'est la dernière radio, on sait qui c'est.
Et on fait beaucoup de bruit en ce moment autour d'un franc-prix. D'ailleurs, c'était un peu idiot d'appeler ça franc-prix. Ça devrait s'appeler... je sais pas, Magré Prix.
Oui, hein? Boulot de prix.
Oui, qui vendent uniquement des produits halal. Et alors, ça fait grand scandale. Mais je vois pas pourquoi. Regardez, c'est quand même extra. Je fais un petit papier là-dessus dans le Libre Journal, parce que, enfin, l'édition imprimée, le Libre Journal imprimé, je trouve extraordinaire. On fait venir les musulmans, les arabo-musulmans en France par milliers. Et puis une fois qu'ils sont arrivés, on voudrait les empêcher d'arriver avec leurs petites habitudes. Alors on commence par les empêcher d'exciser leurs femmes, ce qui me paraît quand même tout à fait déplacé. Après tout, oui, ça fait 5000 ans qu'ils font ça, je vois pourquoi ils continueraient pas, sous prétexte qu'ils ont changé de climat. Ensuite, on prétend les empêcher... Non, Dieu merci, on les empêche pas de se marier avec 3 ou 4 femmes, ce qui leur permet d'avoir 26 ou 27 enfants. Ça, comme ça, ça fait beaucoup de petits Français, c'est très bien. Comme disait monsieur, qui est-ce qui dit ça? C'est c'est Borloo. Borloo a dit que c'était formidable, que c'était la France de l'avenir. Donc, on les empêche bientôt on les empêchait de se faire circoncire. Dieu merci, ils sont pas les seuls de ce côté-là, ils sont un peu tranquilles. Ils n'ont plus le droit de battre leur femme. Chaque fois qu'ils battent leur femme, on appelle la police. Ouais. Et puis maintenant, on voudrait les empêcher de manger les cochonneries. Enfin non, pas les cochonneries, justement. Donc laissez-les tranquilles, ça peut faire, ils ont leur boutique halal. Moi, ce que je propose, c'est de considérer que Franprix, c'est une marque halal maintenant. Enfin, il y a quand même d'autres établissements où on peut faire ses courses. Hein.
Oui,
on n'est pas obligé.
Ouais.
On peut obligé d'aller chez Franprix, on peut aller chez Fauchon.
Oui, ou chez Ediard.
Ou chez Ediard, c'est bien aussi.
Je parle des deux, comme ça, on aura des prix chez les deux.
Voilà, sûrement. Et puis comme j'y vais très souvent,
ouais, là, on se rencontrera à nouveau.
Alors, vous avez reconnu la voix du marquis, bien sûr. Et vous avez peut-être reconnu, encore qu'il soit beaucoup plus rare que le marquis, mais ça n'est pas un reproche, cher marquis, vous avez peut-être reconnu le timbre méridional d'un très vieil ami, non pas qu'il soit vieux, mais ça fait longtemps qu'on est amis. C'est Pierre Pinatel, le Pierre Pinatel.
Ça fait plaisir parce qu'il a bonne mine.
Oui, il est magnifique.
Voilà, c'est ce que je veux dire.
Il ressemble de plus en plus à son propre dessin, d'ailleurs. Ouais, c'est étonnant, hein. Tu es arrivé à... Non, pas hélas, pourquoi? Tu te portes très beau, toujours élégant.
Bien sûr,
il est dans le monde du spectacle, en plus.
Radio.
Alors, je l'ai fait venir pour qu'on puisse...
On peut dire qu'il a une chemise noire, non ça,
oui, camisane, sempre. Il duce sempre la ragione. Voilà, et donc, il est venu avec sa moustache, sa chemise noire et son air à la fois
jaune,
bonhomme et malicieux. Mais la cravate, tu as remarqué que j'ai pas dénoncé, parce que je pense que ta femme va vérifier immédiatement l'état des rideaux. Ta cravate découverte dans la tapisserie. Donc... Non, elle est très chic. Donc vous avez reconnu les organes de ces deux messieurs. Et puis je recevrai dans cette émission également quelqu'un sur un sujet qui est beaucoup moins gay que celui qu'on a évoqué jusqu'à présent. C'est le docteur Patrick Cohen. Alors le docteur Patrick Cohen a été fortement médiatisé il y a quelques années parce que on va parler de ça ensuite, il a contracté le sida au cours d'une intervention chirurgicale. Si je dis une bêtise, ça n'étonnera personne et vous m'arrêtez. Bon, alors, si vous voulez vous approcher pour bien parler dans le micro,
d'accord,
autrement on vous entendra pas. Et il nous parlera de ce qui est probablement un des grands scandales en gestation, un des grands scandales potentiels, voire même réels, de la médecine française qui n'a vraiment pas besoin de ça. Et on approfondira cette question un peu plus tard avec lui. Avant, donc, je voulais, pour continuer cette petite revue de l'actualité rapide, enfin de l'actualité pas très intéressante, parce que si je vous parle de la guerre de l'Irak ou du prestige, ou des choses, j'ai pas grand-chose à dire, parce que tout a été dit, le contraire de tout. Donc on est bien d'accord que c'est mal tout ça.
Et, ouais,
voilà, c'est mal. Bon,
non,
alors maintenant, c'est cool de soi. Alors on va pouvoir maintenant parler des choses réellement importantes. Par exemple, cette histoire qui me paraît tout à fait extraordinaire, c'est un auditeur qui m'a téléphoné pour me dire que il avait trouvé là aujourd'hui dans un supermarché de l'île Saint-Denis une vente de galettes des rois avec couronne. Bon, et alors. Ou alors c'est des vieux trucs de l'année dernière, il faut se dépêcher de les vendre avant la fin de l'année.
Oui.
Ou alors le type, visiblement le patron du Franprix, a pas bien dans la tête le rythme des saisons et surtout le rythme des fêtes. Alors il s'est posé la question, il est allé voir le directeur du Franprix pour lui dire qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous vendez des galettes des rois? Alors lui, je sais pas, c'est un truc religieux. Alors lui, bien sûr, le client lui dit, oui, c'est un truc religieux, comme vous dites, c'est le gâteau de l'épiphanie. En général, ça se mange aux alentours du 6 janvier. Ah oui, c'est ça, l'épiphanie, c'est un truc religieux, c'est quelque chose comme la nouka ou l'ait el kébir. Voilà. Donc, ce qu'on appelle une culture plurielle, maintenant.
Ou épiphe le chien, comme il y a l'humanité à côté de la
culture. Probablement, effectivement, avec des piffes le chien en plastique à la place du petit Jésus. Je trouve que c'est un bon signe de ce qui se passe en ce moment chez nous. D'ailleurs, il y a eu un autre signe, alors lui, qui est beaucoup moins amusant, c'est que, au moment où les évêques de France se mobilisent pour ouvrir les églises aux sans-papiers, Monseigneur Ricard, c'est pas Monseigneur d'ailleurs, Ricard, évêque de Bordeaux, et porte-parole des épiscopes de l'Église qui sont en France.
C'est pas sérieux, hein.
Non, c'est pas sérieux de s'appeler Ricard quand on est à Bordeaux, mais enfin, je choisis pas son affectation.
Ça, pour Ricard, ça ressemble un peu à la mitre, hein, quand même, de temps en temps, dans les temps qui courent.
Et alors, oui, c'est un peu. Alors donc, lui, il a porté plainte, carrément, devant le tribunal administratif, pour demander l'annulation d'une décision du conseil municipal de Bordeaux qui avait affecté l'église Saint-Éloi de Bordeaux au vrai culte catholique, c'est-à-dire pour célébrer la messe de la tradition. Alors, lui, il a porté plainte, il a demandé que... il y a tout le vice de vraiment ces ordures d'évêques conciliaires. C'est pas tous des ordures, mais il y en a quand même un joli paquet. Parce que il ose pas affronter le truc, naturellement, bille en tête. Quand on ouvre ces églises aux sans-papiers, on peut difficilement les fermer aux sans-papiers de l'église. Alors, il s'appuie, comme toujours, sur des considérations d'une haute volée légaliste. Et alors, donc, il considère que l'affectation de cette église à un usage autre que celui prévu est illégale parce que la préfecture n'aurait pas désaffecté dans les règles l'église en question il y a 20 ans. Alors, il y a 20 ans que cette église était complètement vide à Bordeaux. Enfin, pas complètement vide, d'ailleurs, parce qu'elle avait d'abord servi de refuge à des clochards qui ont vidé à peu près tout ce qui pouvait se vendre. Ensuite, elle a servi de refuge à des sans-papiers, à des immigrés illégaux, à des délinquants. Et puis, finalement, la municipalité de Bordeaux l'avait récupérée pour en faire un hangar dans lequel on stockait des archives. Et finalement, la tradition est intervenue il y a eu deux tentatives d'incendie, et la tradition est intervenue pour dire au maire de Bordeaux que c'était plus possible.
Monsieur Juppé.
Et Monsieur Juppé a accordé l'église. Donc il aura fait au moins une chose bien dans sa vie, celui-là.
Oui.
Et voilà que c'est l'évêque, Ricard. Ah, Ricard, sinon rien,
bien entendu,
on aimerait mieux rien.
Ricard et évêque de Bordeaux, ça quand même, ça
l'a... On l'a déjà fait, celle-là,
Marquis.
Oui, il faut se réveiller un petit peu. Oui. Je sais bien que vous passez vos nuits dans les mondanités, mais enfin, quand même. Et alors, donc, il attaque. Et, comme dirait Rocard, il accumule les illégalités, bien entendu. Alors, la première illégalité, c'est que son intervention est contraire à la loi de 1905, mais ça, on s'en fout un petit peu. Mais il y a quelque chose qui est assez bizarre. Alors je vais vous lire un texte dont je ne prends pas la responsabilité, qui est publié par l'association Saint-Éloi, et qui dit « L'évêque a-t-il touché les indemnités d'assurance ?» Ah. Ce litige en cache un autre. Que sont devenues les indemnités d'assurance pour les dommages considérables subis par l'Église dans les années 80, vols, déprédations, actes de vandalisme, destruction des orgues et des statues ? Si l'évêché est toujours affectataire de l'église Saint-Éloi, comme le commissaire du gouvernement l'a soutenu, Parce que le commissaire du gouvernement, naturellement, a pris parti pour l'évêque.
Non.
Bah oui, évidemment. La surprise générale. Donc, si l'évêque est toujours affectataire de l'église Saint-Éloi, comme le commissaire du gouvernement l'a soutenu, il devra rendre compte des énormes dommages subis sous sa responsabilité et dire où sont passées les indemnités d'assurance, estimées à plus d'un million d'euros. Voilà, 7 millions de francs de Gaulle qui se sont fait la paix en fumée. C'est intéressant. Où c'est passé? Il s'est quand même pas acheté une mitre de 7 millions. D'autant qu'il... Peut-être un col en celluloïde.
Oui.
Non, mais même pas. Il doit être comme tous les curés progressistes. Il doit porter des cravates à pois sur des chemises à carreaux.
Je sais pas, je regarde.
Hein? Non, bon, n'y allez pas non plus.
Non.
L'association Église Saint-Éloi a été informée que des personnes qui agissent depuis des années en vue de la restauration du monument menaceraient d'engager l'action civile au nom de la commune afin d'obtenir que la ville soit dédommagée par l'évêché s'il s'avérait que celui-ci est encore affectataire, de sorte que les indemnités d'assurance soient reversées à la collectivité. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est-à-dire, la municipalité donne à la tradition une église qui était une ruine. La tradition l'a fait retaper à ses frais, mais comme elle a été ruinée, cette église, par diverses déprédations, et que c'était un bâtiment assuré, les assurances ont payé. Alors on ne sait pas qui elles ont payé. Si réellement... Alors l'évêque dit, mais l'église n'appartient pas à la municipalité, elle nous est affectée à nous. Donc ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a touché le fric. Alors à ce moment-là, où quel pognon ? Hein, et comme il n'a pas fait les travaux, la municipalité dit, alors dans ce cas-là, il faut rendre l'argent.
Eh ben oui, puisque...
Hein? Et si vraiment c'est la municipalité qui est détentrice des droits sur cette église, eh bien, l'évêque n'a pas à toucher l'argent. Donc il faut qu'il rende l'argent. Alors ce gros malin de Ricard, qui a voulu faire le guignol pour embêter la tradition, il se retrouve avec une très vilaine histoire qui va aboutir, quoi qu'il arrive, à lui coûter 7 millions d'euros. C'est-à-dire à coûter aux fidèles de Bordeaux 7 millions d'euros. Alors comme il se trouve qu'à la cathédrale de Bordeaux, dans les grandes occasions, il y a à peu près 80 fidèles, ça va leur coûter du pognon. 10 000 euros à chacun, il va falloir qu'ils sortent le morlingue.
Je sais bien que
les vineux de Bordeaux sont riches, mais ils ne sont pas forcément catholiques.
Les chartrons, ils n'ouvrent pas facilement.
Et puis ils ne sont pas forcément catholiques.
Non, de moins en moins d'ailleurs.
Voilà. La preuve, c'est que il y en a beaucoup qui ont France derrière leur nom.
Oui.
Hein?
Oui.
Donc, français, oui. Toujours, mais voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter un site internet qui est www, autrement dit sextuple V, point Eloi, Eloi, E-L-O-I, point asso, A-2-S-O, point fr. www.eloi.asso.fr. Là, il y a tous les documents sur le sagage de l'église Saint-Éloi. Et je ne sais pas s'il y a la réponse sur l'histoire des 7 millions d'euros.
Ça, c'est intéressant.
Combien on peut se payer de Ricard avec 7 millions d'euros ?
En tout cas, on peut fréquenter les orfèvres.
Hein. Ah ben oui, à propos de Saint-Éloi, bien sûr.
Très bien.
Voilà à quoi s'occupe le gouvernement. Alors, on nous dit que... On nous dit en plus que les tribunaux sont surchargés. Mais mes pauvres enfants, s'ils s'occupent de ça, c'est pas étonnant.
Mon cher sœur, j'attire votre attention. Quand on aura le même problème avec les mosquées, quand il y aura des traditionnalistes et des pas traditionnalistes et qu'il y aura le même cirque avec les mosquées, ça va encore doubler les frais, tout ça.
Alors, justement à propos des mosquées, il y a un aspect qui va devenir très intéressant avec la multiplication des mosquées, mais surtout avec l'histoire de la... une espèce d'association culturelle qu'ils essaient de créer, que Sarko essaye de créer pour avoir un interlocuteur. Ça a déjà foiré, d'ailleurs. Il annonçait il y a deux jours que c'était fait, et déjà
Le lendemain matin, les
imams ont dit que non, pas du tout. Voilà. Bon. Oui, des femmes. Ils tombent du minaret quand on leur dit ça.
Bah, évidemment.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, la situation de l'islam en France, l'islam n'est pas considéré comme une religion. C'est d'ailleurs pas une religion, c'est un enseignement.
Oui.
Il n'y a pas de prêtre.
Non.
Il n'y a que des enseignants. Donc, ce qui permet aux musulmans, aux islamistes, d'avoir non pas des associations cultuelles, mais des associations culturelles, ce qui leur permet de fonctionner sous le régime de la loi de 1901 et non pas de la loi de 1905, ce qui permet des arrangements avec l'argent. Grand mystère. Et ça, si ça marche, le truc de Sarko, le résultat le plus clair, c'est que les organisations islamistes... islamiques et musulmanes en France vont passer sous le régime de la loi de 1905, bien obligés. et elle est beaucoup moins intéressante, la loi de 1905,
que la loi pas de 1901. Du tout.
Voilà. Alors un auditeur, quelques messages, un auditeur nous dit, dans une boucherie musulmane halal, il y avait du pâté breton, du pâté de... Ah non, j'ai croyé qu'il y avait du pâté de breton, mais ça c'est plutôt une boucherie
qui arrive plus tard.
Non, du pâté breton, mais c'est peut-être du pâté de lapin.
Oui.
C'est cachère le lapin?
Ah, je sais pas, non.
Le lièvre, non, mais le lapin.
Non, je sais pas.
Non, vous pas, vous l'en foutez aussi.
Complètement.
Qu'arrive-t-il à Madame Blair pour qu'on la compare à Bill Clinton? Ça, c'est, enfin, quand les gens auront compris que la totalité des pouvoirs politiques du monde dit libre est entre les mains de voyous mafieux, eh ben, on aura déjà fait un grand progrès. Parce que, en France, on sait pas où passe le fric, de l'Élysée, parce que ça on sait où il passe, mais de l'hôtel de ville, où ils ont quand même en quelques années dépensé 350 millions de caviar.
Oui, et de confiture, le diabète,
de confiture,
terrible,
bon.
Le diabète est effroyable.
Alors en France c'est ça, ils font les pognes dans la caisse. En Angleterre, Madame Blair a confié l'achat de ses appartements. Je rappelle qu'ils sont socialistes, les Blair, c'est ça?
Oui, en principe, pas, hein. Enfin c'est ce qu'ils nous ont vendu au départ.
Oui. Donc ils ont acheté. Oui, socialistes libéraux, j'aime bien ça. C'est comme Ferrar passé champion de natation à peu près.
Oui, c'est ça.
Et alors donc ils ont. Enfin, elle a confié à un escroc le soin de négocier une affaire immobilière. Alors maintenant que la presse s'en est aperçue, elle est montée au filet, elle a dit « Moi, je suis blessée, mais le pire, c'est pour mes enfants. » Ils nous font quoi à chaque fois? Chaque fois qu'il y a un truc, chaque fois qu'ils sont pris avec la main dans le sac, ils viennent pleurer qu'on déshonore leurs enfants. Mais non, c'est pas nous qui déshonorons vous. C'est vous qui déshonorez vos enfants. Voilà, un auditeur me dit « Félicitations pour votre interview dans Jeune Résistance. » Vous voyez, moi, j'ai dans les journaux de la Résistance, j'ai des interviews. Et après, on dit que je suis pas un résistant. Hein? À propos des Arabes et des musulmans à Lille, ils ont construit un lycée spécial à eux sur les fonds publics. Qu'en pensez-vous? Mais ça, qu'ils construisent des lycées spéciaux, je trouve ça très bien. Très, très bien. Je suis absolument pour. Je trouve que d'ailleurs que ça devrait être généralisé, c'est très bien. D'abord, moi et mes filles, je les ai mis dans une école catholique. Je vois pas pourquoi, eux, ils mettraient pas leurs enfants dans les écoles musulmanes. Sur le fonds public, là, ça se discute, mais l'explication que je donnais tout à l'heure me paraît recevable. Ah oui, on me rappelle l'existence de cet ouvrage de Pierre Sergent en 78, Michel Debré ou le clairon impudique. Tu t'en étais bien occupé que Debré, toi. Hein,
oh bah oui, lui, il était assez... Je dois une part de sa gloire.
Voilà. On me demande ce que je pense de la prestation de Sarko à la télé lundi. Alors, je l'ai pas regardé pour tout dire, mais j'ai pas besoin de regarder pour savoir ce qu'il a fait. Sarko, il pratique ce qu'on appelle en prestidigitation, ça s'appelle la double levée. C'est-à-dire, en gros, quand vous prenez les cartes, vous prenez deux cartes dans la même main, vous montrez la carte, vous voyez, tout le monde voit que c'est l'as de pique, mais personne ne voit que derrière, en réalité, il y a un as de cœur, et quand vous reposez la carte et que vous la relevez, à ce moment-là, on voit l'as de cœur. Et les gens disent, c'est formidable, etc. Et il y a l'autre technique de prestidigitation qui consiste à faire des grands gestes avec la main droite, avec des ballons multicolores, des tas de foulards et des allumettes et des choses, etc. Puis pendant ce temps-là, avec la main gauche, on fait l'essentiel. Et bien Sarkozy, c'est la main droite. Hein, il fait tout son cinéma, la télé, mais moi, monsieur, mon père était étranger, comme si c'était une qualité. Bon, qu'est-ce que ça change, son père était étranger? Ben oui, il y en a d'autres qui sont dans son cas. Il n'y a pas lieu de s'en vanter. Il n'y a pas plus lieu d'en avoir honte. C'est comme ça, voilà, il était étranger. Bon, on va pas en faire un fromage. C'est pas une raison. Bien. Et si c'est une raison pour lui, pour autoriser n'importe quel chien coiffé à devenir français simplement du fait de la naissance, alors il n'y a aucune raison, sous prétexte que le père Sarkozy était étranger, pour que n'importe qui puisse devenir étranger aujourd'hui. Et je dirais même que c'est plutôt insultant pour son père, parce que c'est une façon de lui dire, tu vois, vraiment c'est à la portée du premier crétin venu d'être français maintenant. Hein. Alors lui, il s'était peut-être donné du mal. Moi je connais des gens dont les pères sont morts pour devenir français.
Hein.
Alors, donc, il nous raconte tous ces trucs-là, il nous raconte qu'on va voir ce qu'on va voir, dans les banlieues, vous allez voir, halte à la barbarie, c'est le mot à la mode, barbarie, vous avez remarqué? Ça, on est quand même dans un pays où on tue 300 000 enfants à la naissance par an. Bon. Et mais les barbares, c'est pas les avorteurs, les barbares, c'est le gars qui roule à 145 à l'heure sur une autoroute limitée à 130, ou le petit voyou de banlieue qui vole un sac à main. C'est vrai que c'est très mal. Mais enfin, en termes de barbarie, je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir de M. Chirac et de sa bande qui ont signé toutes les lois et tous les décrets légalisant l'avortement. Bien. Pour en revenir à ça, donc M. Sarkozy fait son petit cinéma. tout le monde dit « Ah, c'est un dur !» Mais j'ai même des collaborateurs du Libre Journal qui m'ont téléphoné en me disant « Ah, finalement, Sarkozy n'est pas si mal que ça. Hein. » Donc ça marche. Ça marche, qu'est-ce que je veux dire.
Il passe bien à la télé.
Il passe, c'est zébulon en plus. Il a toujours l'air d'être speedé à 200 à l'heure. Et pendant ce temps-là, je te naturalise à tour de bras, je te régularise à tour de bras, je supprime, d'ailleurs il y a un signe, il a annoncé la suppression de la double peine. Mais la double peine, c'est un mot qui a été inventé par la gauche pour fabriquer un scandale. La double peine, c'est quoi? Ça consiste à foutre à la porte un étranger qui est venu faire des crimes chez nous. Ils veulent supprimer ça. Maintenant, ils disent, une fois que vous avez puni le criminel, il faut qu'il reste en France. Exactement comme si vous aviez chez vous une bonne voleuse. Hein, vous la prenez en flagrant délit, vous payez sur ses gages de ce qu'elle vous a volé, mais vous la maintenez en poste.
Oui, on repart à zéro. Oui.
Alors donc ça recommencera forcément. Donc alors pendant ce temps-là, il a adopté le mot double peine, qui est un mot dangereux, qui est un mot valide, et il a annoncé très clairement qu'il allait la supprimer. Autrement dit, il faut surtout pas se gêner. Venez donc voler en France, au moins vous êtes tranquille, on vous coupera pas les mains. Chez vous, c'est moins sûr, parce qu'en général dans les pays musulmans, on vole deux fois, hein. Une fois de la main droite, une fois de la main gauche, puis après faut apprendre à voler avec les pieds, et ça devient beaucoup plus difficile. Voilà ce que je pense de M. Sarko. Que pensez-vous de la néfaste continuité de la République dans le renforcement des lois Pleven et Guesso par M. Lelouch? Moi, là, je me marre carrément parce que je vais pas en dire plus, mais si vous avez un journal sous la main, avant d'envelopper le poisson, essayez de lire la liste des gens qui ont participé à l'élaboration de cette loi. J'en dirai pas plus. Je ne peux m'abonner à la France courtoise, que faut-il faire pour avoir le numéro comportant l'homélie du Pierre Argouache? Oh, c'est gentil, madame, de poser la question. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, ça. Effectivement, l'homélie du Pierre Argouache pour Pierre Guillaume est imprimée dans le numéro du Libre Journal qui paraît aujourd'hui. Et donc, si vous voulez la lire, vous envoyez 5 euros.
S'abonner, parce qu'il y aura d'autres choses à trouver.
Oui, mais tout le monde ne peut pas s'abonner. 110 euros l'abonnement, c'est quand même...
Je ne sais pas.
Non, vous savez, vous le recevez gratuitement.
Je ne lis pas, moi.
Je ne sais pas, vous avez raison. Oui, vous n'avez pas envie de vous relire?
Non, oui, pour l'occasion, ces derniers temps.
Oh, pardon. Si, dans le dernier, il y a un papier.
Ah,
bon,
ça repart.
Ouais, oui, il y a des preuves. Alors, donc, vous envoyez 5 euros en timbre. Ouais. Au Libre Journal, c'est 4 places Franz Liszt, 75-010 Paris. Mais si je peux me permettre de vous donner un conseil, abonnez-vous directement, parce que dès que vous aurez lu un numéro, vous voudrez les autres, et vous aurez donc dépensé 5 timbres pour rien. Envoyez donc 110 euros directement, 4 par chèque à SDB.
Et après, vous serez accroché, de toute façon, alors on peut plus en passer. Après. C'est pour ça que j'ai arrêté le lien.
Puis si vous voulez envoyer plus, il ne faut pas vous gêner. Maintenant, il y a une autre solution, je vous le dis quand même, parce qu'autrement, je ne serais pas gentil. C'est qu'il existe une cassette, un enregistrement sur cassette de l'homélie, mais qui est beaucoup plus cher, il faut quand même 15 euros, là, et qui est vendu directement par Riomont. Alors, c'est pour les petits-enfants de Riomont. Au fond, c'est pas plus mal d'acheter la cassette quand même.
Ah oui, oui.
Hein? Moi, j'ai pas de petits-enfants. Si, j'ai des petits-enfants, mais c'est pour moi qui les élève, Dieu merci. Donc, à Riomont, c'est village d'enfants de Riomont, boîte postale 28, Liévin. Liévin, c'est dans le Pas-de-Calais. Comme disait Coluche, Pas-de-Calais, ils auraient pu nous prévenir plus tôt. Donc, vous écrivez là-bas, vous envoyez 15 euros et vous recevez la cassette. Vu l'état de décomposition avancée de l'Église catholique, j'ai décidé de me convertir à l'orthodoxie, nous dit un auditeur. Oui, c'est une idée intéressante. Le problème, c'est que quand on s'intéresse un peu à l'orthodoxie, on voit que ça vaut guère mieux. Ils ont toujours de beaux costumes, des belles barbes, mais au fond, ils sont aussi très œcuménistes. Pas tous, hein. L'avantage chez eux, c'est qu'il y a les vétérocalendaires. C'est-à-dire, vétérocalendaires, c'est des gens qui font passer Mgr Lefebvre pour un aimable moderniste, hein, même excessif. Vétérocalendaires, c'est des gens qui ont gardé le calendrier d'avant. Donc c'est très très compliqué de se retrouver. Quand on se donne rendez-vous, en général, on a 15 jours de retard. Voilà. Alors, c'est notre. J'avais dit qu'il fallait pas perdre de temps avec des messages qui n'est. Bon. Donc là, il y a un exemple.
Voilà.
Ceux qui emploient 5 fois par jour l'anglo-ricain en charge d'eux, pour eux, c'est une drogue. Ils déchoiraient à leurs propres yeux en s'exprimant en français. Ce sont souvent les mêmes qui font une forte consommation du verbe focaliser, concentrer, ils vous le laissent, etc. Moi, j'aime bien, mais J'aime bien ce genre de réflexion, ça fait bien avancer le chemin public. Et il faudrait carrément transformer Radio Courtoisie en une école d'enseignement du français correct parlé.
Mais focaliser, focus, c'est pareil, non?
Non, c'est
ah non, on m'expliquera après.
Oui. Oui. Mais pas à l'antenne.
À la mairie, on m'expliquera.
Voilà. Alors, il est battu. Là, j'ai m'a pris de court. Je signale qu'il y aura dimanche, je le dis maintenant parce qu'après j'oublierai, la vente et dédicace de livres au Palais des Congrès de Versailles, avec plus de 100 auteurs.
100
auteurs. Oui, 100 auteurs. Ouais. C'est pas 200 auteurs, c'est 100 auteurs présents à partir de 14h. Exposition vente Charles Maurras. Ils vont pas vendre Charles Maurras quand même. Ah non, non. Pour le 50e anniversaire de sa mort, plus de 1000 titres pour la jeunesse. Prendront la parole François-Marie Algou, Jean Madiran, Georges-Paul Wagner. C'est organisé par Renaissance catholique, 89 rue Pierre-Brossolette, 92 130 Issy-les-Moulineaux. Et la participation est de 5 euros. Ça se passe au Palais des Congrès de Versailles. Il n'y a pas de la porte de Versailles, il n'y avait pas la porte de Versailles, si vous auriez une mauvaise surprise. À la ville de Versailles. Alors pour y aller, la ville de Versailles, il y a plein de trucs. Il y a des trains, il y a au moins 3 trains qui vont, enfin 3 gares. Versailles-Chantier, Versailles-Rive-Droite, Versailles-Rive-Gauche.
Je sais pas, moi,
l'autoroute, voilà, rive gauche. Voilà. Bien. Eh bien, voilà, c'est tout. Le reste, c'est du courrier personnel, donc je ne vais pas le lire à l'antenne parce que je n'aurais pas beaucoup d'intérêt.
Des factures.
Et donc, je me tourne maintenant vers Pierre Pinatel, qui le devoir appelle à l'extérieur. Et voilà. Est-ce qu'on peut écouter un peu de musique avant de te donner
la
parole?
Oui, bien sûr.
Parce que j'ai beaucoup de demandes pour ça, et donc je voudrais qu'on le passe maintenant, si Franck est d'accord. Seule chose quand même, hein. Ouais. Heureusement qu'on comprend pas les paroles, parce que autrement, non, on aurait les cheveux droit sur la tête. Tu comprends les paroles, toi, Pierre? Tu parles couramment? Non, tu parles pas.
Non, c'est curieux. Ouais.
Alors, je voudrais que tu nous racontes. Oui, il faut que tu parles dans le micro. Oui, bien sûr. Voilà. Franck fait des gestes désespérés. Je voudrais bien que tu nous racontes un peu ce que tu es devenu, parce que tu as été il y a quelques années un des dessinateur star, on peut dire, on dirait maintenant star. On va encore avoir des lettres de protestation, vedette de la presse nationale et même dans les marges. Et puis, petit à petit, on t'a vu disparaître, ou on t'a vu t'écarter, t'éloigner.
Oui, non, c'est pas que je me suis éloigné, c'est plutôt la presse qui s'est éloignée de moi. C'est pas... Voilà.
Et tu t'es mis au tam-tam depuis.
Oui, tu vois.
Bon. Et alors, en dehors de cultiver ton jardin et...
Ah ben non, mais je continue quand même.
Tu fais quoi,
Déjà, j'ai sorti un album il n'y a pas tellement longtemps. Ça fait... qui s'appelle Et pourtant elle tourne. C'est mon premier album de dessin d'humour. C'est-à-dire pas politique
du tout.
Pas politique du tout. Voilà, histoire de changer un peu, puis je fais de la peinture, et puis je fais de... Là, je prépare, on n'y échappe pas, je m'étais dit, ça sera terminé, et puis chichi en fait tellement que je prépare un album qui est pratiquement prêt, qui sortira au printemps, qui s'appellera Le mari de Bernadette.
Tu as commencé quand comment?
J'ai commencé mon premier dessin... est paru dans la Marseillaise, le quotidien communiste de Marseille.
Ah oui.
À l'époque, j'étais au lycée de Digne, et puis mon prof de gym, qui était le correspondant de la Marseillaise, m'avait demandé de faire la caricature de l'équipe de football dignoise. Voilà. Alors, et puis après, mon premier album...
Ça, c'est quand même un scoop, hein.
Oui,
c'est une exclusivité.
Mais après, quand même, mon premier dessin politique est paru dans La France de Marseille et du Sud-Est, qui était un quotidien marseillais, qui a fusionné ensuite avec le Méridional, puis après avec la Provence, maintenant avec le Provençal qui s'appelle La Provence.
Voilà.
Et puis après, je suis venu à Paris parce que c'était ça dans les années 50. Je suis monté à Paris en 51 parce que il y avait une telle centralisation en France qu'on ne pouvait pas, travailler. J'ai travaillé dans le Méridional, mais j'ai travaillé dans le Méridional quand j'étais à Paris.
Ah oui.
Là-bas, à Marseille, il n'y avait pas moyen.
Tu ne voulais pas de toi.
Non,
un pays,
Oui, c'était pas...
À partir du moment où tu es devenu parisien, là...
Voilà, et ça continue quand même maintenant, parce que moi qui fais maintenant du spectacle, qui vais en province de temps en temps faire des galas et tout ça, eh bien, on voit que les provinciaux sont assez curieux. Ils ont à la fois une réticence contre Paris, n'aiment pas Paris, parce que Paris, pour des tas de raisons et que je comprends, et en même temps, ils sont époustouflés par tout ce qui vient de Paris.
Encore maintenant.
Ah oui, mais maintenant, ça les épate. Voilà.
Alors, donc tu as commencé à la Marseillaise, ça c'est vraiment une information intéressante. Ensuite,
j'ai commencé à Dimanche Matin, quand je suis venu à Paris, j'ai commencé avec Dimanche Matin, c'était Roger Capgras qui était un personnage.
C'est un personnage incroyable.
Incroyable, c'est lui qui avait été directeur du théâtre des Ambassadeurs, qui est maintenant l'espace Cardin, c'est lui qui avait lancé Les Enfants Terribles de Cocteau, qui avait lancé Jean Marais, etc.
C'était un gros idée. Ou quelque chose comme ça.
Oui, t'es un gros mandataire au Hall et il gagnait beaucoup d'argent en vendant des pommes, surtout en vendant les oignons d'Égypte. Ça venait par bateau. Mais c'était un personnage très très sympathique.
Il avait fait un journal dans lequel il avait embauché sous des noms d'emprunt.
Ah, même pas sous des noms d'emprunt.
Oui, certains sous leur nom.
J'ai connu là Lucien Rebatté.
Oui, c'est ça.
Mais c'est vrai que là, il ne voulait pas plus faire de politique, là. Il a recommencé après.
À l'époque, c'était les bannis de la collaboration. Ils n'avaient pas le droit d'écrire dans la presse. Alors,
c'est même pas le droit d'écrire. Je crois que c'est même maintenant toujours, pour ce qui est de la carte de presse, si on te demande quels sont tes antécédents, si tu as été collaborateur, tu n'as pas le droit à la carte de presse.
Non, encore mais
c'est
maintenant.
Surtout... Hein, ah, je crois bien.
C'est un type de gars à 80 ans qui veut sa carte de presse, il ne peut pas l'avoir s'il a été collaborateur.
Avec le casaque pour les courses.
Ah oui.
Il y avait
Pierre-Antoine
Cousteau.
C'est pareil pour l'obtention d'une casaque pour les courses.
Enfin, j'imagine qu'un type qui a été collabo, il a peut-être pas très envie à l'heure actuelle de monter une écurie de course parce que, en tout cas, de monter les chevaux, ça m'étonnerait. Il doit pas y avoir beaucoup de cavaliers parmi les anciens collaborateurs.
Enfin, ça reste un des critères de refus quand même. Comme pour la carte de presse.
On vit vraiment dans une époque formidable, je trouve.
Dans le souvenir.
C'était une époque qui est quand même moins conformiste que maintenant parce que j'ai en même temps, à l'époque, je suis rentré à Combat. Combat, à l'époque, c'était un journal très sérieux. C'était pas le concurrent du Monde parce qu'il était un peu, quand même, moins. Il vendait moins.
Il payait moins aussi.
Mais c'était un journal très sérieux. Il n'y avait pas une seule illustration, ni dans Le Monde, ni dans Combat. Et là, eh bien, j'ai
c'était
porté mes dessins.
C'était ce match-là déjà, combat ou...
C'était ce match-là, c'était déjà... qui venait de racheter l'équipe de Camus, quoi. Et là, il y avait comme rédacteur en chef un type extrêmement sympathique, c'était Max Zetlaoui. Oui. Et il a aimé mes dessins, et c'est lui qui m'a imposé, alors que ce match-là n'aimait pas les dessins.
Il n'aimait rien, ce match-là.
Non, ben, il était aussi, quand même, il avait de bon goût, puisque je crois que dans son immeuble, dans l'appartement avenue Foch, il avait quelques Velasquez, paraît-il.
Ah non, mais quand je dis il n'aimait rien, dans la presse, il n'aimait rien. Il y a une histoire magnifique de ce match-là.
Ah ben, il avait tellement peur d'être obligé de les payer.
Que... il y a une histoire que j'adore, que c'était un journaliste dont je ne citerai pas le nom, qui avait fait faire un costume par un tailleur du coin, à l'époque où Combat était rue du Croissant, et il avait payé la première partie, puis il avait pris le costume en disant, je viendrai vous payer la deuxième partie, puis bien entendu, il n'était pas venu payer. Et il se trouve que le tailleur, pour des raisons qui m'échappent, avait des relations avec M. Smadja. Et donc, il dit à Smadja, vous savez, j'essaie de récupérer l'argent auprès de ce journaliste-là, j'y arrive pas. Et Smadja appelle, enfin plus exactement, Smadja règle le problème. Et puis, il rentre au journal, et il convoque le journaliste, et il lui dit, voilà, je vous signale que j'ai payé ce que vous deviez au tailleur, et je retiendrai ce que j'ai payé sur votre salaire, par petits bouts. Et le gars dit, bon, bah, il pouvait rien dire, donc il accepte. Et puis, quand même, il était en colère, il va voir le tailleur, et il lui dit, vous êtes quand même un beau salaud d'être allé vous plaindre à mon patron, enfin, ça se fait pas, des choses comme ça. Et l'autre lui dit, oh, bah, d'abord, vous n'aviez qu'à me payer, puis en plus, si vous croyez que j'ai fait ça pour le plaisir, il m'a tellement pris à la gorge que j'étais obligé de négocier la dette pour la moitié de ce que vous me deviez. Alors, le gars retourne voir Smadja, lui dit, mais attendez, monsieur Smadja, vous m'avez dit que vous alliez me retenir, mais je viens de voir le tailleur, et il m'a dit que vous aviez négocié la moitié. Smadja lui dit, ben oui, je fais des affaires, c'est pas pour votre compte. C'est une belle histoire, non?
Ah oui, c'est un personnage très curieux, sympathique, et André Figueras me racontait qu'un jour, il était dans le bureau de Smadja, et à ce moment-là, quelqu'un téléphone. Et cette personne téléphone prend certainement des nouvelles de la mère d'Henri Smadja qui était en train de mourir. Et Smadja lui dit, ma mère, elle est en train de lutter contre la mort comme les Smadja ont toujours lutté contre l'impécuniosité.
Très joli. Alors donc, toi, tu es du ce monde-là et tu as travaillé à Combat jusqu'à quelle époque?
Jusqu'en 56, même un peu après. En 56, j'ai été rappelé en Algérie, 6 mois, par un gouvernement socialiste, un premier ministre socialiste, un ministre de la guerre socialiste. Enfin, vraiment, payé un séjour touristique de 6 mois
oui,
là-bas.
Pour ça, je trouve que c'est pas très chic. Voilà. Après, là, on va.
Et quand je suis revenu, j'ai eu une mauvaise période parce qu'à cette époque-là, ben, toute la presse avait tourné, tous les journaux Algérie française commençaient à. C'était l'Algérie algérienne, c'était pas encore l'Algérie indépendante, ça s'appelait l'Algérie algérienne, etc., etc., quoi. Donc, c'était un peu difficile dans la presse.
C'est pas comme maintenant.
Voilà.
Et donc, ça a duré combien de temps, cette misère?
Oh, bah, tu sais, de toute façon, je travaillais je travaillais dans le Charivari à l'époque, on faisait des petits journaux qui...
Tu as travaillé aux Écoutes aussi, non?
Oui. Aux Écoutes, il y avait toute une équipe de dessinateurs, c'était...
Alors, est-ce vrai ce qu'on raconte sur la façon dont Lévy, aux Écoutes, payait les dessinateurs? Parce que moi, on m'a raconté que le matin du bouclage, tous les dessinateurs venaient apporter leurs dessins. Et puis ils étaient dans une salle d'attente, la secrétaire de Lévy passait, elle ramassait tous les dessins, oui. Elle les portait sur le bureau de Lévy, il choisissait les dessins qu'il voulait, et il payait cash en liquide tout de suite.
Oui, à c'est l'époque ça. C'était ça.
Et alors la secrétaire donc retournait dans la salle d'attente, et elle disait, monsieur Pinatel, on vous a pris 2 dessins, voilà. On attend,
et on passait à la caisse, alors on était payé, je sais pas sur quoi il disait, il y avait marqué un quart.
Un quart de page ou...
On ne sait pas. Et d'autres, il y avait marqué un demi. Quand il y avait marqué un demi, c'était qu'on passait à la une. Donc, il était payé un peu plus cher. Mais c'était avant 1974, ça. Donc, c'était avant la loi Cressard qui faisait que tous les pigistes étaient également journalistes. Ouais. À l'époque, les pigistes, bon, il n'y avait pas de loi sociale pour les pigistes.
C'est l'époque de... Enfin, c'est une presse. Les mœurs de la presse à cette époque-là sont fascinantes. C'est drôle comme tout, la façon dont les gens travaillaient.
Ah oui, j'étais tout à fait.
Il y avait vraiment une ambiance extraordinaire. Tu as travaillé où encore?
C'est-à-dire que du moment, dès l'instant que j'étais à combat, là j'ai très mal mené ma carrière, parce que quand j'étais à combat, le seul fait d'être à combat, ça m'ouvrait beaucoup de portes.
Ouais.
Alors j'étais par exemple à l'époque en même temps à l'Est républicain, au Républicain Lorrain, Dernière Nouvelle d'Alsace, la République du Centre, le Havre Presse, etc. Donc j'en passe, tu vois. Et tu peux voir les changements techniques dans nos professions. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement qu'un endroit dans Paris où on faisait des photocopies. C'était près de la Bourse. Et pour moi, c'était des photocopies à bain. Et c'était plus facile pour moi et plus rapide de refaire mon dessin 5 ou 6 fois pour l'envoyer à 5 journaux différents, plutôt que d'aller faire des photocopies. Et puis à ce moment-là, j'aurais dû abandonner les journaux abominables comme Dimanche Matin, par exemple, abandonner les... Mais j'ai préféré continuer dans des journaux où c'était drôle, c'était amusant à dessiner.
Et tu es rentré à Minute dès le premier numéro, dès les tout premiers
numéros? Non, pas du tout. Voilà, je veux raconter une anecdote, ça ne sera pas croyable. Mais en général, dès qu'un journal sortait, j'allais présenter mes dessins. Et donc, je vais voir Devé qui allait sortir. Et Devé, il me dit, oui, je connais bien vos dessins, etc., etc. Oui, ben faites-moi un dessin pour la sortie du premier numéro. Et je lui fais un dessin qui était dans mon style, c'est-à-dire que certains aiment et que beaucoup n'aiment pas, souvent rabelaisien et assez pas particulièrement élégant, si on veut, bon, vous voyez. Et Devé voit ça et il me dit, oui, c'était un dessin sur les apparentements, je sais pas trop quoi. Et il me dit, oui, mais ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Parce qu'il me dit, et je te jure que c'est textuellement ce qu'il m'a dit, ce que je veux faire, me dit-il, c'est une sorte de monde hebdomadaire.
Jean-François Devé, fondateur de Minute, 15
jours après, je vois sortir Minute, le premier numéro.
Premier numéro, c'était De Gaulle, on a assez de
avec, oui, et puis c'était Boss qui avait fait un dessin.
Enfin,
quand j'ai vu le contenu de Minute, surtout le premier numéro, qui était pas politisé.
Non, pas du tout.
Alors là, je me suis dit, bon, ben, Devé, en fait, il sait pas ce qu'il veut faire. Et au fond, finalement, ça a été ça, je crois, parce que Minute est devenu Grand Minute quand Boiseau et Brignot sont venus.
C'est vrai que Devé était un personnage extraordinaire, mais il était pas du tout, le fondateur de Minute était pas du tout de droite, mais pas du tout, pas le moins du monde.
Ben, il était surtout axé sur, il avait énormément d'informations sur la vie parisienne.
La vie parisienne,
il faisait dans Paris Presse une page entière.
Le monde, oui.
Simplement, il aimait les bons journalistes. Et je le dis avec d'autant plus de détachement que moi, il me détestait. Alors,
donc c'est ce qui fait que je ne suis plus retourné le voir. Je me suis dit, c'est un certain temps, et puis ça montre aussi les mœurs quand même de la presse, c'est assez curieux. Par exemple, donc, un beau jour, il y avait dans Minute un certain nombre de dessinateurs et qui étaient à peu près les mêmes que dans Aux Écoutes.
Oui,
c'était les mêmes.
Oui.
Et puis un jour, c'est Philippe Luit qui a été repris aux Écoutes, qui était moribond, Philippe Luit me demande.
Philippe Luit qui était à Valeurs Actuelles.
Mais à l'époque, il était surtout chez Masson, je crois. Oui. Et il me demande de faire une double page dans Aux Écoutes chaque semaine. Ah, ben, je suis d'accord. Et je vais voir Boiseau, et je lui dis, par courtoisie, je vous dis par courtoisie, je vais donc faire une demi-page, une double page dans la minute.
Et ils t'ont donné une.
Et il me dit, ah non, mais je lui dis, mais je veux que vous soyez ici, que pour Minute. Je lui dis, mais tous mes confrères sont également aux Écoutes. Il me dit, vous, ce n'est pas pareil, je veux que vous soyez à Minute. Ben, alors là, il m'a demandé, j'ai fait le pilier là, c'est que sur une demi-page, et puis ça lui a plu, donc c'est passé rapidement une page entière.
Ah, moi, il faut que je fasse ma teshuva, parce que quand je suis devenu rédacteur en chef de Minute, quand on gagne un poste, on fait tout de suite des réformes. Quoi, en fait. Et donc, la première réforme que j'ai décidée, c'était de supprimer le dessin de Pinatel, bien entendu. ce qui était idiot, mais j'avais l'excuse de la jeunesse.
Oui, hein, mais non. Puis, voilà. je comprends très très bien d'ailleurs qu'il y ait des gens qui n'aiment pas mes dessins.
Non, c'est ça, pas ça, c'est les... j'avais pas de j'étais ni pour ni contre, bien au contraire. Mais il fallait que je montre que j'existais, oui. Donc fallait changer quelque chose dans l'œil du journal.
Le renouveau. Alors,
oui, mais je me souvenais même pas que c'est toi qui me dis ça, parce que c'est Goudot qui m'a. Je crois que Goudot n'aimait pas beaucoup mes dessins.
Ouais, je sais pas.
C'est parce que c'est Goudot qui venait d'arriver. C'était ah bon. Ben,
voilà, tu vois.
Là encore, j'ai loupé le coche dans la mesure où, quitte en minute, il m'a fallu 6 mois pour me libérer, non pas de l'étiquette, mais je suis rentré à Valeurs Actuelles parce qu'il y avait Yann Clerc. Et je dois une vierge chandelle à Yann Clerc. Parce que tant que Yann Clerc était à Valeurs Actuelles, il me passait mes dessins. Et alors, on portait les dessins.
C'est drôle parce que on peut pas dire qu'à l'époque, pas plus maintenant d'ailleurs, que le style de Valeurs Actuelles soit, ou ton style soit particulièrement non. adapté à Valeurs.
Il est beaucoup non, plus mais ils avaient quelque chose de bien à Valeurs Actuelles. C'est que, pour être, par exemple, lorsqu'il y avait un article sur Le Pen ou sur Le Front, eh bien, s'il fallait le faire illustrer, on me demandait plutôt à moi de l'illustrer. Ouais. Tu vois, donc
c'était plus sympathique.
Mais je portais mes dessins à Madame Bourgine au troisième étage de la rue du Zès. Et ils avaient du mal à arriver en bas. Et un jour, justement, Yann Clerc m'avait dit, écoutez, il n'arrive pas au dessin jusqu'en bas, alors donnez-moi un double. Alors je portais les dessins à Madame Bourgine et je portais le double à Yann Clerc. Et un jour, d'ailleurs, il manquait de dessins, il manquait d'illustrations pour un article. Et Yann Clerc dit, mais il n'y aurait pas... C'est curieux, il n'y a pas un dessin de Pinatel, là. On dit non, il n'en a pas porté cette semaine. Ou alors on lui a dit, pire, je crois, oui. Oh, oui, il en a porté un, mais il n'est pas bon. Et alors Yann Clerc l'a sorti. Il se trouve qu'il était bon ce jour-là. Yann Clerc l'a sorti de son cartable, il a dit, celui-là n'est pas bon. Voilà. Mais donc ça prouvait qu'effectivement, il y avait
c'est amusant.
Une sélection.
C'est vraiment une vue, enfin c'est une façon de voir le fonctionnement de la presse qui est très particulière. Donc, je suis sûr que beaucoup de lecteurs n'imaginent pas la façon dont ça se passe à l'intérieur.
Est-ce qu'à un moment, on n'a pas aimé un dessinateur qui met la gomme ? Peut-être c'est ça qui plaisait pas.
Non, mais de toute façon, c'est normal qu'il y a des gens qui... Je vais vous dire pourquoi, je comprends tout à fait qu'on n'aime pas. D'abord parce que moi, il y a certains dessinateurs que j'aime pas. Et puis j'ai vu des gens qui n'aimait pas Moisan, alors que je trouvais que Moisan faisait des dessins magnifiques. J'ai vu des gens qui n'aimaient pas Faisan. Bon, je ne suis pas un fanat du dessin même de Faisan, mais il avait des légendes qui étaient superbes. J'ai vu des tas de gens, qui me disent, par exemple, qu'ils n'aiment pas le Conque. Or, il est particulièrement percutant et c'est magnifique. Et j'ai même vu des gens qui n'aimaient pas Char, alors qu'elle fait des choses magnifiques. Donc c'est tout à fait normal. C'est le propre du dessinateur. Ça nous est difficile de passer inaperçu. Un jour, j'ai un copain, Jean Joly, qui était à l'Aurore, qui me demande un dessin. Et il m'a fait passer un dessin. Il a essayé de m'y introduire. J'ai signé d'un pseudo.
Oui, mais enfin,
c'est ça. Eh ben, le lendemain, j'ai eu coup de téléphone. Alors, tu es dans l'eau. Donc, c'était pas évidemment, possible. Voilà. Bon. Nous, on peut pas passer inaperçu. Alors, si on déplaît, on déplaît. Ben, c'est comme
alors,
ça,
maintenant,
c'est comme ça.
Tu as complètement, enfin, tu as changé non pas de métier, mais de domaine d'activité. C'est-à-dire, tu fais du cabaret.
Le cabaret, j'ai pratiquement arrêté. Parce que c'est justement, j'ai fait pendant une dizaine ou une quinzaine d'années ou même plus, j'ai fait du cabaret. C'est-à-dire, j'avais un tour de caricaturiste chansonnier et je passais tous les soirs dans les cabarets de Paris et même des galas un peu en province par-ci par-là. Et puis après un beau jour on m'a demandé de faire des animations commerciales. Alors là ça consiste dans une soirée de réception ou autre commerciale à caricaturer les gens, etc. C'est ce que je vais faire tout à l'heure dans une heure, puis ce que je ferai demain aussi, puis ensuite je pars vendredi, je suis au casino de Luxeuil et puis je reviens le soir même, je suis à Compiègne, etc. Oui.
Et alors tu as en plus alors il y a une tradition que tu respectes depuis je sais pas combien de temps, 50 ans j'imagine, c'est la tradition des cartes de vœux.
Ah ben oui, les cartes de vœux, je fais chaque année des cartes de vœux politiques, voilà.
3 cette année.
4. Ça fait toujours 4, voilà, parce que c'est une question de technique, ouais. Voilà.
Alors Foucault. La vedette, c'est Raffarin.
C'est Raffarin et Chirac, comme toujours, parce que là, on est sûr de...
Ce qui est très particulier dans le dessin de Pinatel, c'est que tu joues... c'est un dessin hiéroglyphique, c'est-à-dire à la fois il y a bon, les personnages, les caricatures, et puis ces personnages, ce qu'ils disent, par exemple la bulle ou joue un rôle dans le dessin ou la date, par exemple il y a là un dessin de Raffarin qui est en déséquilibre instable, je dis bien un déséquilibre instable, c'est pas une faute, sur le 3 de 2003. Donc il y a cette espèce de façon de jouer avec les mots, avec les lettres, avec les chiffres,
oui, moi,
avec les personnages.
Voilà. Je suis
c'est
pas,
très typique
je suis pas un dessinateur d'esprit, je suis un dessinateur de graphique. Voilà. Ça fait un peu pléonasme, mais c'est ça pour moi. C'est surtout contrairement, par exemple, à un type comme Conk.
Oui, Conk, c'est plutôt une idée.
Conk, c'est l'école de Forain, ouais. la légende ouais. percutante tout d'un coup. Ouais. Moi, je suis incontestablement de l'école de Sénep, ouais. où il y avait beaucoup
voilà,
de.
Voilà, tu es vraiment l'héritier.
Où tout était trituré. Alors on m'a souvent d'ailleurs dit que je ressemble à Sénep, on m'a souvent traité de sous-Sénep, ce qui ne me vexe absolument pas, d'une part parce que c'est vrai, et d'autre part parce que
c'est pas très blessant.
Le seul fait qu'on puisse parler de Sénep, c'est déjà une chose formidable.
Donc, si on veut se procurer ces cartes de vœux, comment?
Eh bien, on écrit Pinatel, 22 rue Saint-Paul. C'est facile à redonner. 22 comme les flics. Saint-Paul, 75-004.
Bon. Et voilà. On envoie des sous?
Bon, on peut envoyer des on peut envoyer 4 euros pour 4 avoir 4 cartes. Et on peut envoyer simplement son adresse pour recevoir une documentation et tout ce qu'il faut, quoi.
Voilà. Donc, si vous voulez, comme chaque année, avoir des cartes postales originales, vous envoyez 1 euro par carte. C'est-à-dire 4 euros pour les 4. C'est pas avec ça encore que tu vas acheter une Rolls, hein.
Non, mais...
Je sais pas, remarque, il y a peut-être 1 million de commandes qui vont arriver. Et vous recevrez les 4 cartes qui sont très amusantes cette année.
Ah oui, ben merci.
Je suis obligé de le dire parce que j'ai éclaté de rire. Oui. Vous aussi, voilà.
Oui, j'ai reçu.
Et je suis content de dire que, encore une fois, j'ai eu tort il y a 30 ans maintenant, tout ça ne nous rajeunit guère. De pas m'apercevoir.
C'est la repentance.
Oui, en fait, tu sais,
dans ma jeunesse, j'ai été viré d'un certain nombre de lycées, et j'ai continué, comme c'est vrai que j'ai toujours été un dessinateur un peu potache, c'est dans la même veine potachière, comme tous mes dessins. Et après avoir été viré deux minutes, donc je suis allé à Valeurs Actuelles, après je suis rentré à National Hebdo, et j'ai été viré de National Hebdo aussi, donc, voilà, c'est...
Enfin, je constate que pour te venger, tu m'as comparé à un proviseur de collège, et c'est particulièrement sévère comme force. Merci Pierre.
Voilà.
Alors, l'adresse, je rappelle, 22 rue Saint-Paul, 75-04, Paris. Voilà.
D'ailleurs, il n'y a qu'à faire même Pinatel sur Internet.
Ah bah voilà.
Et puis ça sort.
Voilà. Merci.
Là,
je te libère puisque
je vais faire le saltimbanque.
Voilà. Merci beaucoup. Alors un auditeur dit, je vous précise qu'à l'enterrement de Jean-François Devet, il y avait bien 90% de gens de droite, il ne devait donc pas être tellement de gauche. Oui. Simplement, j'ai pas eu le temps de terminer ce que je disais tout à l'heure. Évidemment, au début, Jean-François Devet était pas du tout un homme de droite. Il a même été trotskiste, pour tout dire. Donc, c'est vraiment pas un homme de droite. Bon, oui, c'est arrivé à des gens très bien. Mais il a ensuite, il a pris le parti de l'Algérie française. Probablement d'ailleurs. Pour deux raisons, trois raisons. Probablement une détestation personnelle de De Gaulle. Deuxièmement, une détestation du conformisme en général. Et comme tout le monde était à l'époque pour l'Algérie, algérienne, pour l'indépendance, lui a pris, ça l'a dégoûté de voir cette espèce de lâcheté des gens qui voulaient brader un morceau de France. Et puis troisièmement, parce qu'il avait des collaborateurs qui s'appelaient Jean Boiseau, qui s'appelaient François Brignot, Philippe Éduy, et des gens qui étaient, eux, engagés dans le combat de l'Algérie française, et qui l'ont certainement, je dirais pas poussé, mais enfin, qui lui ont fait comprendre l'importance de cet enjeu. Et ayant donc défendu l'Algérie française dans Minute, il a vu arriver vers Minute tous les défenseurs d'Algérie française qui n'étaient pas tellement de gauche en général, et c'est ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout et qui étaient présents à ses obsèques. Voilà l'histoire. Bien, alors maintenant on va changer vraiment de sujet complètement et on va entrer dans un domaine sévère, austère, disons triste. Alors, une parenthèse, beaucoup d'auditeurs envoient des messages en disant « Pourquoi avez-vous dit sextuple V ?» Mais non, j'ai pas sextuple W, me disent-ils. Non, j'ai pas dit sextuple W, j'ai dit sextuple V, parce que c'est 3 W, donc 3 doubles, ça fait 6. Il n'y a aucun message secret dans cette communication. N'y voyez, voilà. Bien, alors, docteur Patrick Cohen, il y a quelques années, au cours d'une intervention chirurgicale, vous vous blessez.
Oui, je me flanque un coup de pointe de bisturi dans l'index gauche. Ce qui est habituel chez un chirurgien, il faut savoir qu'un chirurgien se pique à peu près une fois par semaine. Juste en 82-83, on n'y prêtait pas attention. En 83, quand on a commencé à parler de la possibilité de la contagion du sang dans les contaminations par le virus du sida, je me suis dit... Chirurgien, on est en première ligne, et c'est pour ça que j'ai fait des déclarations d'accident de travail. Quand je piquais, je faisais une déclaration. C'est pour ça que je peux vous dire, je me piquais environ une fois tous les 10 jours. Et c'est le chiffre habituel. Il y a des études qui ont été faites, notamment par le docteur Johannet, l'hôpital Bichat, qui trouve que en moyenne, un chirurgien se pique dans 11,7% des cas. Ce qui peut paraître énorme, mais vous savez, une couturière se pique, c'est pour ça qu'elle met un dé, et c'est pour ça que nous, on peut pas, malheureusement, il n'y a pas de dé pour chirurgien.
Alors, à la suite de ça, donc vous êtes malade, vous sentez que votre état de santé...
Ça a été beaucoup plus compliqué que ça. 6 semaines après, j'ai eu 42 fièvres. Et une éruption des plaques. Alors, j'ai été vu par la faculté. J'avais ce qu'on appelle des mononucléoses, c'est-à-dire j'avais une série de globules blancs qui étaient anormalement élevés. On a dit mononucléose infectieuse, mais enfin, on n'était pas sûr parce que c'est une maladie de l'adolescent. J'avais 43 ans à l'époque, ça collait pas trop bien. Mais enfin, la fièvre est tombée. Je me suis retrouvé j'étais à nouveau en bon état, donc on n'a pas insisté et j'ai repris mon travail. J'avais arrêté à peu près une dizaine de jours. Et puis rien, tout allait bien. Je travaillais normalement, c'est-à-dire que j'opérais beaucoup. Je vivais normalement. J'ai même eu une petite fille. Après ma contamination. Mais en 92, j'étais anormalement fatigué. Alors je sais bien, je n'avais plus 20 ans, mais enfin, 96, ça faisait 53 ans, c'est pas très vieux. J'ai consulté nos connaissances du sida avaient bien progressé. Et on commençait déjà à parler d'infirmières contaminées. Alors moi, infirmière, chirurgien, je vois pas la différence. Les chirurgiens, contrairement à ce que certains croient, ne sont pas des surhommes, et si une infirmière peut se contaminer, un chirurgien doit pouvoir se contaminer. J'ai donc été voir un spécialiste du sida, je ne donnerai pas son nom, je serai charitable, et je lui ai dit, je dois avoir le sida. Il m'a dit, mais pourquoi ? J'ai dit, parce que je suis chirurgien, je me pique. Il m'a dit, mais ce sont des blagues, ce sont les chirurgiens homosexuels qui veulent faire passer leur homosexualité en accident de travail. Alors, j'ai dit, je ne demandais qu'à être rassuré. Vous pensez, j'aurais dû, si j'avais été raisonnable, j'aurais dû me faire tester moi-même.
Mais enfin, si vous aviez été raisonnable, vous n'auriez pas été chirurgien.
C'est pas c'est un je ne sais pas. Oh.
Écoutez, franchement, je peux dire, vous êtes venu avec un ami qui ne parle pas, qui me fait les gros yeux. Mais il faut reconnaître que le seul fait de dire, je vais prendre une lame et je vais ouvrir le ventre de quelqu'un pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, au départ, il y a déjà un malaise, non ?
Ah, mais d'abord, je n'ouvrais pas les ventres. J'étais chirurgien orthopédiste.
Vous ouvriez quelque chose. J'allais voir à l'intérieur.
Bon. J'allais voir à l'intérieur.
Non, mais blague à part. Je crois que quand on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est vrai que les médecins en général répugnent à se soigner, peut-être parce qu'ils ont conscience de l'inanité du projet, nous.
Écoutez, à l'époque, c'est effectivement être séropositif, ça voulait dire être mort. Mmh. Alors, le savoir le plus tard possible, ça valait mieux.
Mais vous êtes donc vous êtes piqué en mai 83. Ouais. Vous avez eu la première attaque de fièvre dont vous nous parliez en juin-juillet 83.
Oui.
Et le test, vous l'avez subi en 85.
94.
À 94. Oui. Ah d'accord. Les premiers tests, c'est 85.
Oui. 80...
L'apparition des premiers tests. Et 9 ans plus tard, vous allez donc quand avez-vous vu votre confrère qui vous a dit
c'est en 92.
En 92.
Mais j'allais parfaitement bien.
Donc au lieu de vous dire bon on va faire un test qui existe depuis 7 ans, ouais. Il vous dit mais non ça n'existe pas, c'est une maladie homosexuelle.
Exactement.
Et les médecins racontent qu'ils ont ça pour cacher leur homosexualité.
Voilà. Bon. En gros, c'est ce qu'on m'a dit.
Et ils vous renvoient dans vos...
On me renvoie en psychiatrie.
En psychiatrie.
Parce que j'étais déprimé, donc on m'a envoyé en psychiatrie. Alors j'ai vu un premier psychiatre.
Vous êtes une publicité vivante pour la médecine française, vous. Alors,
En quelque sorte.
deux seulement, c'est vrai. Bon.
Alors, j'ai vu un premier psychiatre. Oh ben, qui m'a posé des questions comme tous les psychiatres, j'imagine. Et puis ça n'allait pas, j'en ai vu un deuxième, puis ça allait encore moins, j'en ai vu un troisième, j'ai vu quatre psychiatres. Et je continue à travailler, à opérer, j'étais de plus en plus épuisé, et brutalement, je suis en octobre 93, je suis tombé dans le coma. Alors on m'a hospitalisé, on a commencé à me faire des examens, IRM, scanner, ponction lombaire et j'en passe, et des meilleurs. J'ai été vu par le banc et l'arrière-banc. C'est en mars 94. J'étais vraiment à la mort. Et ma femme a dit, est-ce qu'on a fait un test de dépistage?
Parce que, pardon, c'est à ce moment-là qu'on a dit à votre femme, c'est la maladie Creutzfeldt-Jakob.
Oui, c'est ça. Avant, quand j'étais moribond, on l'a dit, c'est un Creutzfeldt-Jakob, il va mourir, c'est une question de semaine.
Ça, c'est quand même ahurissant, parce que c'est ahurissant de penser, qu'est-ce qu'il y a comme sémiologie, identité cible sémiologique entre un Creutzfeldt-Jakob et un sida?
Écoutez, je suis chirurgien orthopédiste, je suis pas neurologue, ouais. Je peux pas vous répondre.
Alors,
non, j'étais dans le coma, j'avais 50 et quelques années, et j'étais dans le coma et ils ne trouvaient rien.
Le diagnostic est porté en 94. Oui. Autrement dit, ça veut dire que pendant 12 ans, enfin pas pendant 12
non,
ans,
pendant 11 ans,
11 ans, vous avez continué à opérer.
Alors,
en étant porteur du virus.
En étant porteur du virus. Donc, en étant potentiellement contaminant.
Contaminant. Et ce que vous dites aujourd'hui, bon, parce que là, on a vu votre... on a raconté votre histoire très brièvement, oui. Parce que ça n'est pas ça que vous vouliez raconter, mais vous venez pour lancer un cri d'alarme, en quelque sorte.
Bien oui, écoutez, ce ne sont pas des chiffres que je sors d'un chapeau, c'est en simplement en comparant différentes publications. Un chirurgien, ça se pique, disons, 30 fois par an. Vous faites le calcul sur une vie de chirurgien, 30 ans, ça fait même plus, un peu plus que ça.
1000 piqûres, on peut dire.
Oui, ça fait 1000 piqûres, disons, ça fait 1000 piqûres. Quand on voit la prévalence du sida, d'hépatite C et d'hépatite B...
Bah, le risque de contamination est énorme.
Le risque de contamination est énorme. Et alors,
or, il n'y a pas de contrôle, enfin de test systématique.
Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Vous savez que le dépistage du sida est interdit sans le consentement de l'intéressé. Un chirurgien n'a pas le droit de faire tester un malade avant de l'opérer. C'est interdit. Il faut son consentement. Un malade n'a pas le droit de demander à son chirurgien s'il est séropositif ou s'il est séronégatif.
Mais est-ce que vous avez la possibilité, en tant que chirurgien, si vous avez un malade qui vous paraît douteux, de dire, écoutez, moi, je ne vous opère pas si
non,
je n'ai pas
non,
un test.
Non,
c'est
non,
pas possible.
Non. On opère tout le monde. Ouais. Oui, le séro-négatif, séropositif, contagieux, pas contagieux, je dirais c'est l'honneur de la profession.
Bien sûr, mais c'est une question de, précaution. Je veux dire, oui. Quand vous avez un malade, bien sûr il faut soigner les séropositifs et les sidéens ou les sidaïques comme les autres, mais je dirais qu'on est peut-être porté à ce moment-là à faire beaucoup plus attention
au test chirurgical. Exact. Si un malade refuse, on est méfiant. Mais enfin, quand on le sait, c'est quand même... Vous savez, traverser un champ de mines, il vaut mieux savoir où sont les mines plutôt que de savoir simplement que le champ est miné.
Oui, c'est vrai. J'ai deux messages là que je vous lis parce que je pense qu'ils vous feront plaisir. Docteur Cohen, un confrère qui travaillait dans le même hôpital que vous, tient à vous dire qu'il vous appréciait beaucoup. Il donne pas son nom, malheureusement. Et merci docteur, vous m'avez opéré en 85 et je vais très bien. Et là, le malade donne son nom. Donc vous voyez, finalement, vous n'êtes pas l'ange de la mort, Dieu merci.
Alors le problème, quand j'ai ouvert l'œil, on m'a demandé est-ce que tu sais ce que tu as. Je dis mais c'est évident, j'ai le sida. On m'a dit mais comment. Je dis j'ai consulté pour ça, on m'a dit que c'était pas ça. Mais donc j'avais raison. On
me dit, le confrère dont vous ne donnerez pas le nom, il est toujours en exercice?
Il a pris sa retraite.
Ah ben voilà, c'est l'avantage de la retraite, ça. C'est tranquille pour un moment. Mais alors une question un peu peut-être stupide, mais est-ce que vous avez une idée? Oui, je crois que c'est une question stupide, mais je la pose quand même, de la proportion de médecins qui sont des médecins à risque, de chirurgiens à risque.
Tous.
Oui, tous, c'est vrai, bien sûr. Oui, c'était donc bien une question d'imbécile. Merci de me faire remarquer.
Oui, c'est vrai. Non, la proportion, je dirais. Mais je vous dis, c'est pas un chiffre sorti d'un chapeau. C'est en tenant compte de publications sérieuses, dont certaines viennent du ministère de la Santé. Oui. Comme quoi tout a été écrit et tout n'a pas été lu. Un chirurgien qui disent qu'un chirurgien se pique une fois, 30 fois par an.
Ouais. Donc vous nous avez dit 1000 fois dans sa carrière.
1000 fois dans sa carrière.
C'est-à-dire que est-ce qu'on peut établir une proportion de risque en fonction du nombre des cas de personnes contaminées?
Écoutez, sur mes malades, j'ai exigé, alors ça a été un combat, parce que, évidemment, l'hôpital, quand ils ont été au courant, on pensait que j'allais mourir, étouffer l'affaire, c'était plus simple. Moi, j'ai dit, mais non, il faut rappeler mes malades, savoir s'ils sont contaminés ou s'ils ne sont pas contaminés, parce que...
Ah là, il y avait une réticence marquée de l'hôpital.
Il y avait une réticence plus que marquée de l'hôpital. On m'a dit, on rappelle les malades à condition que vous nous faites un papier en disant que vous avez le sida et que vous demandez à ce qu'on rappelle vos malades. J'ai dit, je veux bien vous faire votre papier, mais je dis, sida que j'ai contacté dans votre établissement. Alors on me dit, ah mais non, c'est pas votre arrêt, votre accident de travail remonte à trop loin, je peux pas dire, vous comprenez, j'ai pas... Alors je lui dis, écoutez, votre papier, vous ne l'aurez pas. Alors le temps passe, on arrive en 95, et ça m'embêtait de laisser les gens dans la nature sans savoir s'ils étaient contaminés ou pas. Parce que ça commençait à se soigner, le sida. Donc, si les gens avaient été contaminés, il fallait le savoir. Alors, j'ai une bonne avocate, qui m'a dit, c'est extrêmement simple, vous allez voir un journal de votre choix, vous racontez l'histoire au journaliste, et puis vous verrez bien. Alors j'ai été voir Jean-Yves Nau au Monde. Alors, j'ai eu droit aux questions. Bon, bien sûr, il s'est posé la question de savoir si j'étais homosexuel, drogué, si j'avais 15 maîtresses. Enfin, il m'a posé des questions de manière à me cibler à peu près. Il a téléphoné à mes collègues. Bon, il s'est rendu compte que ce que je disais était vrai. Donc, il a fait un article, 4 colonnes à la une du Monde, en disant le docteur Cohen, chirurgien chef de service à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, contaminé accidentellement par le virus du sida, l'hôpital refuse de rappeler ses malades. Alors, la 4 colonnes à la une
du
Monde.
Ça a dû pas mal chauffer, quand même.
Ça a été l'affolement à l'hôpital. D'abord, ça a été l'affolement des malades, de mes malades, parce que les gens ne savaient pas à partir de quelle date j'étais contaminé. Donc, ça a été l'affolement total.
Puis surtout, les gens moi, j'ai été opéré à Saint-Germain, d'ailleurs. Je ne me souviens pas du tout du nom du médecin qui m'a opéré. Donc, ça doit générer une inquiétude folle.
Alors, ils ont fait un numéro vert, cellule de crise, etc. Mais il était au courant depuis 14 mois. Et on aurait dit que ça leur était qu'il l'apprenait la veille.
Est-ce qu'il y a une différence de comportement entre l'administratif et le médical dans cette affaire. Est-ce que les médecins sont, enfin vos confrères sont plus conscients que les administratifs
ou... Je dirais que les
est-ce chirurgiens... Est-ce que l'omerta joue complètement?
Ah, l'omerta joue complètement, bien sûr. Parce que ça, et les chirurgiens. Quand vous êtes chirurgien et que vous êtes contaminé, bon, moi, j'ai été... Je ne suis pas exactement fonctionnaire, mais c'est à peu près ça. Je suis fonctionnaire. Donc, accidenté du travail, je ne suis pas à la rue. Puis j'étais indemnisé, j'ai pas de problème financier. Vous êtes chirurgien libéral. Vous n'avez plus le droit d'opérer. Vous êtes à la rue. Alors, vous voyez le problème. C'est un problème national qui se pose.
C'est un problème moral, surtout parce que, enfin, la considération, c'est vrai que c'est dramatique pour un médecin, pour un chirurgien de se retrouver du jour au lendemain sans travail, mais c'est absolument effrayant de penser que pour ne pas perdre son boulot, il va prendre le risque de contaminer des dizaines de personnes.
Des
personnes.
J'ai dû opérer 6-7 000 personnes. Je ne sais pas comment ils ont compté les malades que j'ai opérés. Ils annoncent le chiffre de 3 600. C'est beaucoup plus que ça. Mais enfin, ils doivent pas tenir compte des cas où j'étais l'aide. Mais l'aide peut piquer aussi bien que l'opérateur. Enfin, ils ont fait une sélection la plus étroite. Eux sont arrivés à 3 600. Et sur lequel on en a testé 860.
Et
il y a eu un cas.
Qui n'est pas forcément imputable à votre...
Qui est forcément... Ça, écoutez, on a commencé à dire que cette femme qui avait 75 ans avait la cuisse légère.
Ah oui, d'accord. Oui.
Avait la cuisse légère.
C'est extraordinaire. Ah,
j'assure que... des gens sérieux m'ont dit, mais elle devait avoir la cuisse légère. Mais... On a imputé un dentiste de Jakarta. Alors, finalement, on m'a demandé si j'étais d'accord. Parce que tout ça... On est à la limite de la médecine et de la loi. Alors on ne sait jamais si c'est légal, si c'est illégal. On m'a demandé si j'étais d'accord pour me faire tester. J'ai l'impression que...
Bon, on aurait espéré que vous...
On a espéré que je refuse. Ouais. Moi, j'ai dit bien sûr. J'aurais pas fait ce chambard si je voulais pas le faire. On a demandé à la dame si elle était d'accord pour se faire tester. Alors là aussi... précautions médico-judiciaires, 3 témoins qui certifient que c'est sans contrainte que l'on accepte de se faire tester. Et ensuite, il a fallu comparer les virus. Et c'est le professeur Montagnier, qui a comparé les virus. Et ça l'intéressait bien parce que dans la littérature américaine, on avait évoqué le cas de la contamination d'un soigné par un soignant, et il concluait que sauf, il y avait une histoire assez vaseuse d'un dentiste de Floride qui avait contaminé 6 personnes, mais 6 personnes sur 6 000 opérées, on arrivait, et on a dit que ce type était criminel et contaminait volontairement les gens. Ce dentiste étant mort, les malades étant morts.
Oui, ça a éliminé le problème. La dimension morale de cette affaire est extraordinairement forte, parce que...
Lourde.
Très très lourde, parce que on voit bien que... C'est l'histoire du sang contaminé, c'est l'histoire de...
Mais c'est l'affaire du sang contaminé.
Toutes ces histoires, on voit que, au fond... Il y a quelque chose qui est plus important que la protection de la vie humaine, que la protection de la santé, que la protection... Enfin, c'est l'horreur pour une famille. J'imagine que ça doit être très destructeur pour le milieu familial.
C'est extrêmement destructeur.
Eh bien, on prend le risque de multiplier ça, tout simplement par des considérations qui sont des considérations de fric, de protection administrative, de frilosité administrative. On dit, oh là là, mais attendez, on peut pas. On peut parfaitement contaminer quelqu'un, mais on ne peut pas l'obliger à se tester, parce que vous comprenez, ça serait une atteinte aux libertés. Mais lui filer le sida, ça c'est moins grave que d'atteindre à sa liberté en lui forçant à se tester. C'est monstrueux.
En quelque sorte, c'est ça.
Ouais. Et voilà, je vous posais la question de la prise de conscience par le milieu médical et le milieu administratif de cette situation, parce que bien entendu, tout ce que vous nous racontez, c'est actuel, c'est contemporain.
C'est contemporain.
Aujourd'hui même.
Écoutez, il y a Il y a 15 jours, il y a une contamination
dans une clinique
à l'Institut Jacques Cartier. Bon, c'était exactement mon histoire. Là, c'était un chirurgien cardiaque. Bon, moi, je suis chirurgien orthopédiste, mais c'était la même histoire. Pourquoi c'est passé dans la presse? Parce qu'il y a eu une fuite. Hein, c'est pas l'hôpital qui du fond du cœur, les yeux dans les yeux, a dit bon, ben il y a eu une fuite qu'ils ont amené à avouer. Donc on essaie d'étouffer.
Quel sentiment tirez-vous de en dehors du drame personnel, je dirais, oui. si toutefois on peut arriver à penser à autre chose, mais le regard que vous portez sur votre profession, c'est plus qu'une profession, médecin, c'est presque un sacerdoce. Quand on entre en médecine, on entre dans un milieu qui est très particulier. Il y a un serment, il y a un engagement, oui. Et voilà. Donc là, à l'autre bout de votre carrière, si j'ose dire, quand vous considérez ça, qu'est-ce que...
Bah, c'est un très beau métier.
Et vous continuez à penser que c'est un beau métier et que les gens qui le pratiquent sont dignes de ça?
Oui, parce que ils continuent à opérer. Ils ont l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et ils continuent à opérer.
Bon, mais est-ce qu'il y a une responsabilité ou est-ce que c'est simplement un fléau qui tombe comme ça?
Non, il y a des responsabilités. Le fléau numéro un, c'est d'avoir autorisé le dépistage, les prélèvements de sang dans les prisons.
Ouais. Ça a été un véritable crime.
Enfin, ça partait d'une bonne intention. C'est la rédemption par le don du sang.
Oui.
Ça a multiplié par tout.
Ça marche à tous les coups, ce truc-là. C'est comme dans un tout autre ordre d'idée de compenser la baisse démographique par l'immigration. C'est une très très bonne idée. On va voir où ça va aboutir. Mais c'est toujours ces solutions politiques à des drames humains. Mais dans le cas qui nous intéresse, il y a effectivement cette décision qui a été prise de faire des prélèvements dans les prisons. Mais il y a quelque chose qui est encore plus criminel. C'est une fois qu'on a été informé de l'existence du virus dans les prélèvements, d'avoir continué à distribuer ces souches, enfin ces culots de sang qu'on savait contaminés, ou dont on savait qu'ils risquaient d'être contaminés, pour des raisons là strictement financières. Bah, il n'y avait aucune condition de rédemption là.
Non, c'était le fric. C'était le fric, bien sûr.
Et là, on est en face d'un autre problème de fric, c'est-à-dire qu'effectivement, si l'administration médicale en France reconnaît la situation que vous dénoncez. Oui. D'une part, il risque d'y avoir des centaines de chirurgiens qui vont se retrouver tout simplement, ou des dizaines, ou
enfin, oui, c'est vrai qu'on est peut-être
un peu fort. En tout cas, des chirurgiens qui vont se retrouver à la rue, mais il y a aussi, il va y avoir des procès médicaux à n'en plus finir, parce que n'importe quel gars qui aura subi ne serait-ce que l'ablation d'une verrue et qui aura le sida, il essaiera de faire valoir que c'est comme ça qu'il a attrapé.
Exactement. C'est pour ça que c'est un problème énorme. De l'histoire du sang contaminé, c'est du pipi de chat à côté.
Est-ce que vous avez rencontré des hommes politiques, des députés, des sénateurs, des gens qui vous ont prêté l'oreille, qui vous ont assisté?
J'ai rencontré il n'était que futur Premier ministre, enfin, il est devenu Premier ministre, qui m'a écouté avec beaucoup d'intérêt et qui m'a dit que, vu l'ambiance politique qui régnait à l'époque, il était difficile de faire sortir l'histoire d'un chirurgien contaminé.
C'est pas le moment, c'est jamais le moment.
C'était pas le moment.
Et des journalistes?
Des journalistes, même frilosité. Sortir la première fois, j'ai eu soutien, une bonne couverture médiatique, j'ai été bien soutenu. Il n'y a pas eu trop de, on n'a pas mis en cause mes mœurs. Ça a été correct, mais...
C'est systématique, cette mise en cause des mœurs. L'autre jour, Gérard Védlige, qui est un CRS maître nageur sauveteur... Eh bien, il nous a raconté la même chose. Il nous a raconté que quand il a révélé à son chef, avec lequel il travaillait depuis des années, qu'il le connaissait parfaitement, il lui a révélé il lui a dit ce qu'il avait. L'autre l'a soumis à un véritable interrogatoire stalinien, en disant, mais ça, c'est parce que t'es allé aux putes quand on était à Strasbourg, etc. Ce qui était absolument faux, tout le monde savait que c'était faux.
J'ai connu la même chose.
C'est terrifiant.
Je voudrais pas être trivial, mais, de je dirais de jeunes filles, enfin de jeunes femmes, sont venues me faire subir ce qu'on appelle l'interrogatoire d'Atlanta. Alors c'est Atlanta, c'est une cette ville d'Amérique d'Amérique du Nord où il y a le centre, le CDC, c'est-à-dire un centre qui s'occupe de toute la pathologie, c'est la mecque de la médecine anglo-saxonne, donc la mecque de la médecine mondiale. Il faut bien reconnaître que ce sont les Américains qui sont les plus forts en beaucoup de choses. Il y a un questionnaire, en gros, pour dépister si vous êtes homosexuel et si vous le cachez. Alors vous répondez par oui ou par non. Ça fait 80 pages, et notamment, on vous demande si vous vous faites...
C'est bien les Américains.
Si vous vous faites sodomiser avec une brosse à dents.
Avec une brosse à dents.
Avec une brosse à dents. Bon, alors on va pas demander par quel
chacun
bout.
Prend son plaisir où il le trouve. C'est terrifiant. Ah, parce qu'il y a un mélange de stupidité, de crapulerie, de bassesse dans tout ça. On sent que c'est vraiment...
on ne peut pas payer. Voilà.
Oui, tout ça pour des histoires de fric. Est-ce que vous avez écrit quelque chose? Est-ce que vous allez écrire?
J'ai écrit quelque chose. Je crois que le docteur Mirabel l'a lu. Cet écrit est en rétention administrative, je dirais, par ma femme. Si vous voulez, ma femme a été...
Elle a peut-être eu sa dose d'ennui aussi.
Elle a eu sa dose d'ennui. Bon, d'abord, elle a attendu 3 jours les résultats de son propre test. On l'a laissé attendre, alors qu'un test, ça se fait en quelques heures. Elle a attendu 3 jours avant les résultats du test. Ben, grâce à Dieu, elle était négative. Ma fille, qui avait été conçue alors que j'étais contaminé, était négative, ce qui est plus normal, parce que quand on est... En général, la contamination se fait de la mère à l'enfant. Bon, non, ma femme a vu d'un regard très réprobateur le fait que j'en parle à la presse.
Que vous médiatisiez, bien sûr.
Mais enfin, je lui ai expliqué que c'était un conseil de mon avocat, et que c'était un bon avocat, que c'était le seul moyen.
Je pense aussi que c'était pour vous une question de vie ou de mort.
C'était
d'une certaine manière. Je crois qu'il fallait...
Vous ne pouvez pas
supporter...
Et en plus, si vous voulez, le problème, c'est que c'est un problème mondial. Parce que le virus, il n'est pas comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'arrête pas aux frontières. Donc, ce que vous avez en France, vous l'avez en Afrique 10 fois plus, parce que la prévalence du sida va être 10 fois ou 20 fois supérieure. Vous l'avez aux États-Unis, vous l'avez en Angleterre, vous l'avez partout. Donc, c'est un problème à gérer sur un plan international.
Merci docteur Cohen. On arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous apporter des informations qui sont extrêmement intéressantes et très très importantes. Je pense qu'on refera une émission prochainement. Parce que je crois qu'on n'a pas épuisé le sujet, il s'en faut beaucoup. Et d'après les messages que je reçois, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les auditeurs.
Écoutez, est-ce que je peux, là on est sur antenne?
Oui.
Est-ce que je peux vous laisser mon numéro de ligne, la ligne portable?
Oui, bien sûr. Vous voulez que les auditeurs vous appellent ou vous voulez le donner à l'antenne?
Je le donne à l'antenne, André. Il est sur le...
Alors, on l'a ici.
Parce que comme ça, mon portable, je peux le couper.
Oui, vous pouvez donc joindre le docteur Cohen, mais naturellement, si vous avez des choses importantes à lui dire.
Si
vous êtes contaminé, voilà. 06 70 57 67 88.
C'est ça.
06 70 57 67 88, c'est le numéro donc du portable du docteur Patrick Cohen, qui a engagé un combat, c'est peut-être pas le mot, qui a engagé une mission. Un grand mot, je sais pas. Enfin, qui veut porter l'information sur le drame de la contamination des soignants par le sida.
Des infirmières aussi.
Merci docteur, merci beaucoup. Eh bien, c'était la Veuve Joyeuse, c'est ça?
C'est la Veuve Joyeuse.
Donc, c'est la minute du Marquis. Ça vous intéressait, Marquis?
Ah, ce que je viens d'entendre, oui. Mais j'ai une crainte, Serge, c'est qu'on ne trouve plus une brosse à dents dans le marais depuis 10 minutes.
C'est pas vrai. Vous avez... Alors, le Marquis va nous faire une colère, il va serrer ses petits poings parce que il est très très fâché contre... vous pouvez vous taire, monsieur, s'il vous plaît.
C'est parce qu'on lui a volé un peu d'instant.
Oui, bah alors voilà. Ça, il vient de gagner 10 minutes. Oui, il faut que j'explique quand même aux auditeurs que c'est sur le temps d'antenne de Daniel Amiche.
Non, c'est sur ton propre temps d'antenne, Serge, que tu te prends du temps. C'est oui, ça qui est ça, absolument...
C'est tordu comme truc.
Et c'était pas tant.
Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Voilà. Alors, Marquis, donc, vous êtes en colère parce que vous trouvez que les gens riches...
se comportent mal.
Se comportent comme des purotins.
Voilà, je vais vous le dire en deux mots, puis après je vais lire une petite lettre que je vais adresser à une dame qu'on voit partout, sérieusement, à la situation. Je trouve que quand on...
On va se faire des amis encore.
Oui, oui, oui. Mais oui, pas grave. Quand dans une soirée de charité où on a payé une fortune pour manger assez mal, on organise une tombola au profit d'un hôpital d'enfants, voilà, et que des gens gagnent pas mal de lots, qui sont pas d'ailleurs des choses extraordinairement importantes, pourraient peut-être de temps en temps les remettre un peu en loterie pour que ça fasse un peu plus d'argent. Vous avez un exemple, là c'était pas un lot insignifiant. Il y a quelques jours, pour la soirée de l'enfance, dans le cadre de l'association de Madame Valérie Giscard d'Estaing, il y avait un raout à Versailles qui était archi somptueux, 3 reines en exercice, 3 douzaines d'altesses pures en exercice. Il y a eu une tombola, c'est Monsieur Giscard d'Estaing qui a gagné la montre de chez Chaumet, je crois.
Attendez, vous voulez vous arrêter, c'est parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
Oui.
Madame Giscard d'Estaing organise une tombola au profit des enfants,
oui.
Je sais pas quoi.
Voilà, et son mari gagne la montre.
Il y a Monsieur Chaumet.
Il y a Chaumet dans l'affaire, bien
célèbre,
sûr. Alors, M. Giscard d'Estaing se souvient que ce soir-là, c'est leurs 50 ans de mariage, et offre la montre à sa femme. Voilà, vous pourrez lire tout le développement de tout ça dans Point de vue Image du Monde, dans Gala et dans le reste, et je trouve ça assez intéressant.
Mais c'est vraiment les tombolas au profit des organisateurs de tombola.
Bah oui, je sais pas. Alors, il y a une dame dans Paris qui est charmante, qui est Mme Jean-Bernard Raymond, et qu'on voit partout. Je sais pas à quel moment elle dort, à quel moment elle prend un bain.
Ça.
Et alors, à force de la voir, j'ai envie de lui faire une petite lettre, et comme vous me laissez le micro 2 minutes, j'ai donc écrit « Cher Monique Raymond, depuis toujours, je vous vois partout. Vous ne me voyez jamais. Un regard, s'il vous plaît, lorsque je vous baise. La main, mollement tendue. Vous êtes rarement au bras de votre ambassadeur ministre député de Marie, Jean-Bernard Raymond. En revanche, vous quittez rarement celui de Pierre Cardin, dont vous êtes le blond porte-manteau. Seule femme qui n'a pas l'air déguisée dans les œuvres du couturier académicien. Cardin, au bras d'une femme enceinte de ses œuvres, ça c'est Paris. Immuablement souriante, vous êtes toujours placée aux tables d'honneur. Vous êtes VIP chez les VIP, chez les very impotentes personnes. Comment gardez-vous votre teint de pêche en ingurgitant chaque soir des nourritures de théâtre? Je vous aime beaucoup. C'est donc avec joie que chaque matin je vous retrouve. Mais ce sont peut-être vos clones qui trônent derrière les caisses du Monoprix de la rue du Poteau. Le bottin mondain m'apprend que vous êtes docteur en droit. Est-ce que ça aide à la fréquentation des tordus? Vous êtes aussi conseillère municipale. Je me demande quand. Nous nous croisons dans des dîners dits de charité. On bouffe pour atténuer les malheurs du monde. À votre rythme, c'est un apostolat, madame. Lorsqu'une tombola est tirée au profit d'un hôpital ou d'un orphelinat, vous gagnez systématiquement plusieurs lots. Juste récompense de votre staccanovisme mondain. Le 26 novembre dernier, durant la soirée Hugues Capet, la sympathique foire du trône de Jacques-Henri Auclair, Alain Terrallier, vous avez gagné 4 ou 5 lots, si ma mémoire est bonne. Place de théâtre, CD, parfum, etc. Comme ce soir-là, la tombola était au profit d'un hôpital d'enfants, j'ai espéré que vous alliez remettre en loterie une part de votre butin pour augmenter le montant du don. Que nenni, vous aviez vos emplettes pour Noël et c'était bien ainsi. Comment vous en faire grief? En 30 ans de mondanité charité, je n'ai vu qu'une fois un tel geste. Il venait de Madame la Duchesse de Noailles, une dame. À demain, Monique.
Eh ben, cette fois-ci, elle est habillée pour l'hiver, mais pas par Cardin. Hein.
C'est le lot des lots, là.
Bon, Marquis, je suis désolé de vous dire que vous êtes pas un gentilhomme. Voilà. Mais c'est dans l'émission d'Amiche. Hein.
Oui, c'est vrai. Oui, mais d'ailleurs, c'était comme ça qu'on avait prévu tout.
Bon. Voilà, mon cher Daniel.
Ce fut une grande joie de te voir. Je te demande, bien sûr, de présenter mes vœux de fête à ton épouse.
Ben, c'est ce que je m'en vais faire.
Encore qu'elle... Alors, c'est pas... Il y a des Daniels, les dames, je ne sais pas quand est-ce que ça tombe sur le calendrier. Moi, je m'en suis découvert 20 dans le martyrologe.
Je le retiens facilement parce que c'est la veille de mon anniversaire.
Oh! Oh, alors donc, voilà. Nous sommes dans la vigile de l'anniversaire de Serge Beckett, voilà, qui donc... fête demain ses 39 printemps.
Comment 39?
36. 36. Oh, excuse-moi, pardon. Enfin. Excuse-moi. Donc c'est 36. Alors, je pense que voilà. Tous nos amis qui sont ici...
vont me faire un petit cadeau. Chaque joueur doit vous donner 1000 francs.
On peut organiser une tombola.
On va faire une tombola, voilà. On va essayer de faire une tombola. Bravo, félicitations. Tu es bien conservé pour ton âge.
Je suis bien, oui.
Pas mal.
Merci, c'est gentil. Puis j'ai une plus belle barbe que toi. Chers auditeurs, merci de votre attention vigilante et patiente. Madame Monique, c'est ça?
Non,
c'est pas Monique.
C'est Monique, oui.
Non, bah, je voulais lui dire, je suis comme Drucker, on lève la main, on fait Monique, il n'y a pas de télé, donc...
À tout à l'heure, Monique.
Voilà, tout à l'heure. Merci, mon cher Daniel, de m'avoir concédé ces 7 minutes.
Oh, c'est un bonheur.
Chers auditeurs, je ne serai pas là la semaine prochaine. Non. Ce coup-ci, c'est pour de vrai. Je l'ai dit la semaine dernière, mais je m'ai gouré. Et donc là, c'est pour, je ne sais plus quand, mais trop tôt.
Le 25. Le 25. Nous faisons en principe une émission ensemble le 25.
T'as qu'à croire, oui, c'est ça. Tu crois au Père Noël, toi.
Tu as déjà changé d'opinion. Mais il faut me prévenir un peu à l'avance, parce que sans toi, je ne sais plus quoi faire.
Bonne semaine et même bonne quinzaine, et que Dieu nous garde.